mama. Nu qui n'avons pas d'histoire. Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia. Logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras en pé, en pé, en pé. Xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas dentro de todas las casas, mulleres do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Aujourd'hui, mercredi 3 février, je suis en direct avec vous. Alors, pour commencer, pardon, je suis en train de vérifier que mon micro marche bien, mais ça n'a pas l'air de très bien marcher. Mince, attendez. Ah, j'ai un problème, je crois, de micro. Voilà, bon, je crois que ça marche. Ok, désolée. Donc, pour commencer, quelques actualités qui ont retenu mon attention. Donc, une victoire avec le marché public sur le 39-19 qui a été retiré. Donc, le 39-19 était en danger. Le gouvernement avait décidé d'installer un marché public mettant en concurrence des associations et entreprises pour devenir le prestataire du numéro national d'écoute pour les femmes victimes de violences. Donc, j'en avais parlé la dernière fois. Donc, ce marché public était un réel danger pour la qualité d'écoute, de conseils et d'analyse féministe fournie à ces femmes en danger, et ignorait l'expertise de Solidarité Femmes qui a créé et anime le 39-19 depuis toujours. Les associations féministes se sont mobilisées et avec votre aide, nous avons gagné le projet du marché public qui a été classé sans suite. C'est une grande victoire pour la lutte contre les violences masculines. La mobilisation continue afin d'assurer le renforcement et la pérennisation du financement des associations spécialisées. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour sauver ce 39-19. Mais il faut quand même suivre cette affaire. Alors, une autre actualité qui a retenu mon attention, c'est par rapport à la GPA. Donc, heureusement, le Parlement européen s'y oppose. Donc, cela date, c'est une actualité du 22 janvier. Un rapport voté en session plénière du Parlement européen condamne l'exploitation sexuelle à des fins de gestation pour autrui. Un premier pas en attente d'actions concrètes. Lors de sa session plénière, le Parlement européen a donc adopté un rapport qui était porté par une femme allemande, Maria Neuschl, sur la stratégie de l'Union européenne en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans son paragraphe 32, ce rapport précise que le Parlement européen reconnaît que l'exploitation sexuelle des femmes à des fins de gestation pour autrui et de reproduction, ou à des fins telles que les mariages forcés, la prostitution et la pornographie, est inacceptable et constitue une violation de la dignité humaine et des droits humains. Si le paragraphe du rapport qui vient d'être voté est un pas encourageant vers l'interdiction internationale de la maternité de substitution, qu'elle soit commerciale ou, entre guillemets, altruiste, elle apporte une condamnation et non pas une interdiction. Ce qui signifie que cet avis du Parlement européen ne s'impose malheureusement pas dans le droit des pays membres. Le Conseil de l'Europe est cependant alerté et devra s'engager à la prendre en compte dans ses actions. Voilà, alors ensuite, je passe à une actualité très très importante qui a lieu donc dans la France entière et aussi à Marseille et qui donnera lieu à un rassemblement donc ce dimanche 7 février. Il y aura des manifestations de soutien à Julie et sa famille. Donc Julie, qui a été violée entre ses 13 et 15 ans par 20 pompiers de Paris. Depuis 2010, il y a 10 ans d'une procédure lamentable où la police demande à Julie pourquoi elle n'a pas repoussé les pompiers. Où l'expert en psychiatrie utilise un concept réfuté depuis 1952, celui d'hystérie de Charcot, concept misogyne par excellence et totalement désuet. Et les magistrats cherchent à montrer que Julie était consentante à 13 ans, sous emprise des médicaments. Corinne Leriche, la mère de Julie, et un collectif d'associations féministes dont fait partie Osez le féminisme 13, Femmes solidaires, Marche mondiale des femmes, organisent des rassemblements partout en France et notamment à Marseille. Donc nous serons le dimanche 7 février à 14h30 devant le palais de justice. Julie suivait un traitement médicamenteux. Je vous ai dit qu'elle était sous emprise des médicaments pour de fréquentes crises de spasmophilie et de tétanie, lesquelles avaient nécessité plus de 130 interventions des pompiers entre 2008 et 2010, donc entre ses 13 et 15 ans. Lors d'une de ces interventions, un pompier qu'on appellera X, qui avait 20 ans à l'époque, l'avait personnellement contacté. Il l'avait emmené chez lui. Et malgré son âge, donc 13 ans, le jeune homme et elle avaient eu une première relation sexuelle suivie de beaucoup d'autres. X avait proposé à ses collègues d'avoir à leur tour des relations avec sa « entre guillemets conquête ». Pendant 2 ans, 20 pompiers seraient entrés en contact avec elle, qui, dans un état de vulnérabilité totale, s'est à chaque fois montrée incapable de dire non. Julie est aujourd'hui handicapée à 80% parce qu'elle a tenté de se suicider par défenestration en 2014. C'est vraiment abominable. Donc seuls 3 pompiers, tenez-vous bien, ont été reconnus coupables. La justice a osé requalifier les viols qu'a subi Julie en atteinte sexuelle. D'après eux, Julie aurait été consentante. Ceci échappe donc aux assises, enfin devrait échapper aux assises et devrait être jugé en correctionnel. Donc c'est scandaleux et sa famille fait appel à la cour de Versailles qui rejette l'appel. Donc sa famille se pourvoit en cassation et la cour se réunira mercredi 10 février. Voilà, donc c'est vraiment terrible. Et quand on pense, donc j'y reviendrai encore, que le seuil que l'on demandait de non-consentement, j'en parle souvent dans mes émissions, on le demandait à 15 ans. Malheureusement, il semblerait qu'il y ait une proposition de loi qui n'a pas fini son parcours législatif, qui a été adoptée par le Sénat et qui demanderait un seuil à 13 ans. C'est pas la même chose, pas du tout. Donc ça aussi, c'est vraiment affolant. Donc une autre actualité, enfin non, c'est pas une actualité en fait, c'est juste par rapport justement à cette justice patriarcale, pour un peu comprendre qu'est-ce qui se passe en France au niveau de la justice, eh bien, il est bien de se rappeler quelque chose par rapport au garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Voilà. Donc en fait, il se trouve qu'il a déclaré récemment déjà qu'il ne voulait pas de précipitation, entre guillemets, dans la modification du code pénal pour punir les incestueurs, donc suite au MeToo inceste. Donc rappelons-nous un peu l'histoire. Donc en 2012, Éric Dupond-Moretti était avocat et il avait plaidé pour un inceste heureux en défendant, entre guillemets, deux jeunes femmes incestuées par leur père depuis leur enfance et qui, après avoir déclaré avoir été violées par lui avant leurs 15 ans, étaient revenues alors sur leur déclaration et avaient défendu le père, qui avait pris seulement 5 ans de prison. 2 ans plus tard, en 2014, ce père, qui avait été libéré, a tué sa fille aînée et il a sa fille aînée qui avait osé fuir son emprise. Sa fille aînée avait eu un enfant de lui. Donc non, il n'y a pas d'inceste heureux, mais on voit que de très bons avocats qui ont su sauver la peau d'un incestueur en profitant de l'emprise que celui-ci exerçait sur ses victimes. Donc le grand Dupond-Moretti est censé représenter les parties civiles. En fait, il plaide pour le père. Et en défense, M. Hubert Delarue évoque un inceste heureux, un autre avocat. On le lui reprochera, mais il n'a fait que citer un psychiatre. On en oublierait presque que si la cadette des violées a alerté les gendarmes après 3 avortements, c'est qu'elle s'inquiétait que son père regardât d'un drôle d'air la dernière petite fille de la maison. Donc ça, c'est des nouvelles qu'on peut retrouver dans le courrier Picard de l'époque. Donc quand on voit ce qu'il en est, la légitimation en fait de ces violences sexuelles jusqu'à l'inceste par la justice et par les psychiatres, voilà, c'est vraiment terrible. Donc pour revenir à ce seuil d'âge dont je parle souvent et que l'on demande donc à 15 ans et non pas à 13 ans, il y a aussi un homme qui est très connu, qui s'appelle Patrick Jean, qu'on a entendu récemment s'exprimer dans les médias, car il s'intéresse au sujet de l'inceste et de la domination masculine depuis longtemps. Il a écrit un livre qui s'appelle « La loi des pères », donc j'y reviendrai. Mais en tout cas, voilà, lui, il a beaucoup parlé de ça et... je vais le citer par rapport à ce qu'il dit sur la légitimation explicite de l'inceste qui a existé jusqu'à très récemment, hein, dans les années 70, et qui maintenant s'est transformée. Maintenant, c'est plus, enfin, même si la justice est restée très patriarcale finalement. Donc voilà ce qu'il dit par rapport à cette légitimation. Il dit « La loi française, qui considère implicitement qu'un enfant peut avoir eu volontairement une relation sexuelle avec un adulte, puisque le droit français, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays comme la Belgique, l'Espagne, etc., ne considère pas comme criminel en soi ce que nous appellerions une agression sexuelle sur mineur. D'après la loi française, on peut considérer que ce n'est pas nécessairement une agression, pas nécessairement un viol, et donc que si ce n'est pas un viol, cela veut dire par définition qu'il y a eu consentement. L'enfant était d'accord, voire demandeur, car dans le langage commun, il y a une grande confusion entre consentement et désir. S'il a consenti, c'est qu'il le désire. » Alors là, je rebondis sur ça, c'est vrai que c'est tout à fait une confusion que j'entends souvent dans les personnes que je connais et ou même dans les médias. Cette histoire de consentement, ce qui n'a rien à voir en réalité avec le désir, il faudrait questionner le consentement. Donc voilà ce qu'il dit par rapport à l'âge minimal de consentement que les associations féministes demandent, qui semble très confus pour la plupart des gens, parce qu'en fait on ne fait rien pour que ce soit simple. Donc voilà ce qu'il dit. En fait, je dirais que c'est clair. On estime qu'un enfant peut consentir actuellement et que l'adulte doit réprimer ce désir-là, parce que sinon, il commet non pas un crime, mais un délit. Cela va dans le sens des stéréotypes des petites filles qui peuvent aguicher les hommes, et aussi que l'homme est faible sexuellement, qu'il est tenu par son sexe, et que si son sexe dit « je veux ça », l'homme va suivre, et donc le pauvre, il tombe dans un piège. Tous ces stéréotypes sur la sexualité ne sont pas énoncés comme ça par le législateur, mais d'une certaine manière, c'est ce que cela signifie. Or, il y avait une manière... en France, d'en sortir très simplement, contrairement à ce qui a été dit par le gouvernement. D'ailleurs, des magistrats m'ont confirmé qu'ils l'avaient suggéré au cabinet de Marlène Schiappa. Il s'agit de définir un nouveau crime n'interrogeant plus l'attitude de l'enfant victime. Tout acte sexuel avec pénétration sur un enfant de 15 ans deviendrait un crime, partant du principe que la question du consentement n'a pas à être posée à cet enfant jusqu'à cet âge. Évidemment, la loi pourrait permettre de tenir compte de l'écart d'âge entre les parties pour ne pas condamner un majeur de 18 ans qui aurait eu une histoire d'amour avec un mineur 3 ans plus jeune. Donc politiquement, donc, ce seuil n'a toujours pas été accepté. Eh bien pourquoi, d'après lui ? Eh bien parce que le stéréotype demeure, ce stéréotype du possible consentement des enfants qui reste malheureusement toujours actuel. Donc moi, je rejoins tout à fait son analyse. Et je pense qu'effectivement, il ne faudrait pas poser la responsabilité d'un consentement quelconque sur les enfants qui vivent des abus ou des viols sexuels ou des incestes. Donc, ensuite, par rapport justement à l'ampleur donc, du phénomène maintenant qui a lieu sur les dénonciations, les personnes qui parlent enfin du MeToo inceste, qui est une très bonne chose, voilà ce qu'il dit par rapport au fait que maintenant, voilà, le phénomène, on en prend la mesure. En fait, ça fait très très longtemps que des associations en parlaient. Mais bon, maintenant, on entend enfin les victimes, comment dire, oser de plus en plus déclarer ce qu'elles ont vécu. Pourtant, ce phénomène n'entraîne non toujours pas une réaction de la justice. Et d'ailleurs, Patrick Jean s'est exprimé récemment sur les mesures proposées par Emmanuel Macron en disant que pour lui, elles étaient complètement dérisoires. Alors voilà ce qu'il dit par rapport à la réaction de la justice. Si ni dans le monde politique, ni dans l'espace médiatique, jamais une réponse systémique n'est envisagée à ce phénomène de masse, dont les conséquences psychiatriques et somatiques ne sont plus à démontrer, c'est qu'elle se heurte à trois obstacles majeurs : le coût économique, le coût culturel et le coût psychologique. Le coût économique est celui auquel il faudrait concéder pour venir à bout du problème. Actuellement, 6% des enfants correspondent à 720 000 victimes estimées parmi les mineurs actuellement scolarisés en France. La prescription des faits tombant après 20 ans, jusqu'à la récente modification de la loi, on peut donc estimer à plus d'un million le nombre de victimes qui seraient actuellement ou à très court terme en droit de demander des comptes à leur agresseur devant la justice. Le système judiciaire, dans une misère absolue, ne pourrait pas en encaisser 10%. Voilà pourquoi 70% des plaintes sont classées. Et comment les théories alambiquées de type syndrome d'aliénation parentale ont toujours autant de succès. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le syndrome d'aliénation parentale, je vais vous l'expliquer juste après. Elles permettent de se débarrasser de problèmes qui demanderaient des moyens pour être traités. Et donc l'enfant ment et sa mère est l'instigatrice de ses mensonges. Donc voilà, en fait, c'est ça le syndrome d'aliénation parentale. C'est une invention de faux psychiatre, en fait, qui en fait culpabilise la mère qui dénonce un inceste et qui disent que voilà, la mère a manipulé son enfant et qui est encore actuellement utilisé par la justice. Donc tant que la justice ne sera pas radicalement mieux dotée, y compris en termes de formation des magistrats, le coût économique sera un frein important pour toute mesure en faveur des enfants victimes. Alors deuxième coût, le coût culturel, qui consiste à admettre que l'endroit où l'enfant est le plus en danger en termes d'agression sexuelle ou de viol est sa propre famille et l'entourage propre de celle-ci. Or, la famille est toujours considérée comme le lieu de sécurité, de réconfort, brique minimale de la construction d'une société. Remettre en question un système d'autorité archaïque où l'homme a autorité, mais surtout la propriété du corps des femmes et des enfants. Il faut se rappeler, c'est important de se rappeler que le viol conjugal, par exemple, n'est inscrit dans la loi française que depuis 1990. Donc il faudrait remettre en question donc, ce système d'autorité archaïque, système patriarcal, et cela nécessite une révolution copernicienne de la pensée sur la famille. Lorsque l'on observe les réactions violentes qui se sont manifestées lorsqu'il s'agissait simplement de permettre à des homosexuels de se marier, on mesure à quel point cette évolution de la société entraîne un coût culturellement douloureux pour une partie du corps social. Ensuite, il y a un coût psychologique d'une prise en compte du phénomène, et on peut imaginer aisément, si l'on pense que statistiquement, parmi nos proches, pères, frères, fils, amis, collègues, il est possible qu'il existe un homme, il faut savoir que 98% des agresseurs sont des hommes, susceptibles de passer à l'acte. On estime qu'1% des hommes ont une attirance sexuelle pour le corps des enfants. Si l'on y ajoute les agresseurs incestueux qui n'ont pas cette attirance, on peut considérer qu'un homme sur 40 peut commettre ou commet des délits ou crimes sexuels en direction des enfants. Vivre avec cette réalité à l'esprit est extrêmement coûteux psychologiquement. Et on vit mieux en ne le sachant pas, d'où le déni. Le terme qui résume le mieux cette réalité sociale à laquelle nous devrons un jour collectivement faire face est « enfant » du latin « infance ». Il signifie littéralement « celui qui ne parle pas ». Et c'est encore ce qu'on attend de lui. Voilà, donc j'ai trouvé cette publication donc, de Patrick Jean, très intéressante pour comprendre un peu ce qui se passe, la non-justice face à tous ces phénomènes. Donc, voilà, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que, bien sûr, maintenant, donc, on prend mieux l'ampleur du problème, on entend mieux les victimes. Et pourtant, le viol incestueux, eh bien, ça fait longtemps qu'il est dénoncé. Et donc, on a une société qui actuellement semble le découvrir, qui semble sidérer. Et cette réalité, pourtant, du viol incestueux, cela, c'est vraiment étonnant, puisque en 1985 et 1986, déjà, donc ça fait quand même un bail maintenant, étaient publiés deux témoignages de victimes, de la honte à la colère de Viviane Clarac et Nicole Bonin, et le viol du silence d'Eva Thomas. Donc, du coup, je voudrais revenir sur Eva Thomas et son témoignage, en fait. Je l'ai réécouté et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, du coup, je vais vous le faire écouter, donc le son témoignage de l'époque. Donc c'était en septembre 1986, dans une émission fort célèbre à l'époque, Les Dossiers de l'écran, qui était diffusée en prime time pour la défunte Antenne 2, et qui donnait donc la parole à Eva Thomas. Et son courage est incroyable face aux réactions qui ont eu lieu donc, pendant l'émission, où en fait on a assisté vraiment incroyablement à une légitimation pratiquement de l'inceste. Heureusement, il y a quand même eu des répercussions importantes qui allaient dans le bon sens, notamment le lendemain où les écoutantes du collectif féministe contre le viol ont enregistré un nombre d'appels records et ont apporté réconfort et solidarité à des victimes qui, à l'époque, ont commencé aussi à témoigner en appelant ce collectif, déjà. Et donc des victimes qui, comme avaient tué les crimes qu'elles avaient subis souvent pendant des décennies, puisque personne ne voulait les entendre. Donc suite à ça, en 1988, il y a le collectif justement féministe contre le viol avait réalisé un film qui s'intitule « L'inceste, la conspiration des oreilles bouchées » où quatre victimes témoignent. Donc ce film sera vu à travers toute la France par nombre de travailleurs sociaux, police, gendarmerie, magistrature, médecins. Donc il y a eu une répercussion qui est que la loi a été modifiée le 10 juillet 1989 pour rallonger pour la première fois les délais de prescription à partir de la majorité pour les victimes. Et puis, depuis, il n'y a plus rien eu. Le viol incestueux était revenu dans le non-dit absolu. Et pourtant, on se dit que voilà, si les oreilles et l'émotion étaient restées grandes ouvertes, elles auraient entendu que ce type de viol se produise dans toutes les classes sociales, que la solitude des victimes est immense. Mais la société patriarcale ne voulait pas entendre. Comme l'a dit Patrick Jean, impossible de remettre en cause la famille, havre de paix et pilier de la société. Donc je vais vous faire écouter le témoignage de Eva Thomas, donc, qui était en 1986 au dossier de l'écran. Voilà.
Alors j'ai choisi de parler à visage découvert et parce que j'ai envie de sortir de la honte et j'ai envie de dire aux femmes qui ont vécu ça que il faut pas avoir honte de ce qu'on a vécu et moi je n'ai plus honte de répondre de mon histoire Évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai donc écrit ce livre. Et c'est à cause de ce livre que ce soir je peux être là et que je peux parler tranquillement de mon histoire. Je crois que sans l'écriture, jamais j'aurais pu faire ça. Mais j'ai dit tout ce que j'avais vécu, senti pendant 30 ans après le viol dans ce livre-là, et maintenant j'ai trouvé une sorte de paix et je peux vous en parler ce soir.
Vous avez entendu ce qu'a dit Madame Y. Bon, l'inceste s'est passé avec son frère. Bon, on l'a accusé d'être consentante, etc. Vous, ça s'est passé avec votre père. Vous aviez à peu près le même âge, 14 ans, 15 ans, etc. Mais vous m'avez dit, j'ai eu l'impression de rêver. Enfin, j'ai eu l'impression que ça n'était jamais arrivé. Je ne me suis plus souvenu de rien le lendemain.
Oui, ça s'est passé une nuit. Et bon, la nuit, c'est terrible parce que... Bon, la nuit, il y a aussi les rêves, les cauchemars, etc. Et bon, après, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais un trou noir dans la tête, un blanc dans ma tête. Je ne savais plus ce qui s'était passé. J'étais horriblement angoissée, mais je savais seulement... Enfin, j'avais le souvenir de mon père sur moi et c'est tout. Mais tout ce qui s'était passé, j'en avais aucun souvenir. Et j'ai mis 30 ans à retrouver la mémoire de cette nuit-là. Et d'ailleurs, j'ai demandé à mon père de m'aider. Il y a 6 ans, j'ai écrit une lettre à mes parents pour dire que je ne pouvais pas aller les voir parce que chaque fois que j'y allais, j'étais malade. Et je n'en pouvais plus de cette espèce d'hypocrisie de jouer à la petite fille gentille qui fait comme si rien ne s'était passé. Et j'ai donc demandé à mon père de me dire ce qu'il avait fait. Et il m'a répondu. Et bon, ça a été très dur pour moi parce que finalement, jusqu'à la lettre de mon père, je me défendais toujours en me disant que c'était peut-être pas vrai. Enfin, il y avait toujours cette espèce d'espoir que c'était pas vrai. Mmh. Et si vous voulez, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir rêvé, effectivement. Et on se défend comme ça. Mmh.
Mais pourquoi c'est la même question quand... On peut se poser à propos de toutes les victimes. Pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit, par exemple, à votre mère ?
D'abord, ce que j'avais vécu, ça n'avait aucun sens pour moi. Enfin, si vous voulez, ça n'a aucun sens si votre père devient votre amant une nuit pour redevenir votre père le lendemain matin sans qu'un seul mot soit prononcé. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Alors, tout bascule. Enfin, tout ce que vous avez vécu, le sens des mots, plus rien n'a de sens. Et on ne peut pas penser à ça. C'est comme de la dynamite, si vous essayez d'y penser, tout explose dans votre tête. C'est pas pensable. Donc, si vous voulez, ce qui a eu de terrible après, c'est que j'ai cru que j'étais enceinte d'un monstre. Et la seule issue que j'ai trouvée, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas dire ça à ma mère, bon, parce qu'il y avait la honte, il y avait l'impression que j'allais tout détruire, que donc, j'étais la plus grande des pécheresses du monde, en fait, toutes ces choses-là. Et donc, je n'ai rien dit, j'ai simplement cessé de manger et j'ai fait une anorexie mentale de 9 mois. Mais ma mère me suppliait, elle me disait « Pourquoi tu ne manges pas ?» Et je ne pouvais pas lui répondre. J'avais l'impression que si ces mots-là sortaient, j'allais tout détruire et j'allais la tuer.
Mais vous saviez confusément, on parlait tout à l'heure de cela ensemble, vous saviez confusément que ce n'était pas bien, je veux dire.
Oui, bon. Bien sûr.
Mais...
Je ne savais pas du tout comment on faisait les bébés, etc. J'étais en pension chez les sœurs et j'étais dans un milieu très catholique où la sexualité était absolument interdite et où on n'en parlait jamais, où il n'y avait aucun mot pour dire ça. Donc, mais seulement, j'avais bien conscience qu'il s'était passé quelque chose qui ne devait pas se passer. C'est tout.
Et vous avez, pardonnez-moi, mais laissé faire.
Oui. Alors, pendant des années, je me suis torturée en sentant que j'étais la coupable, que c'était de ma faute, que j'aurais dû fuir, que pourquoi j'avais pas crié, pourquoi bon, toutes ces choses-là. Et j'ai lu pas mal de témoignages de femmes qui racontent toutes la même chose.
Oui,
si vous voulez, on a toutes les mêmes mots pour dire la scène. On utilise toutes les mots pétrifiés, hypnotisés, je ne pouvais pas bouger, mes larmes sortaient, mais je ne pouvais rien dire. C'est ça qui est absolument terrible, c'est que c'est une situation tellement inimaginable qu'on est complètement pétrifié.
Oui, voilà, alors terrible question que lui pose donc cet animateur des dossiers d'écran. Je me rappelle pas de son nom. Vous pouvez aussi trouver une autre vidéo sur YouTube qui montre les réactions pendant l'émission, terribles, donc des réactions du standard qui témoignent de personnes, d'hommes qui témoignent tranquillement de leur crime d'inceste, qui disent que voilà, ils ne voient pas le problème, qui caressent leur petite fille de 13 ans, voilà. Et il n'y a aucune réaction par rapport les invités de l'émission, n'ont aucune réaction. Et pire encore, ensuite, c'est vraiment incroyable de voir ça. Il y a un gynécologue qui est invité aussi à l'époque dans cette émission. Et lui, carrément, il explique qu'il a des patientes qui ont été victimes d'inceste. Enfin, c'est peut-être pas le mot qu'il utilise, lui, parce que justement, il dit que la plupart du temps, pour lui, c'est des incestes heureux, qu'il n'y a pas eu de coercition, qu'elles étaient en grande demande de tendresse et que tout ça s'est fait dans un grand romantisme. Voilà. Donc c'est vraiment, à l'époque, il y avait une grande légitimation. Et c'est vraiment, je voulais vous passer son témoignage, donc d'Eva Thomas, depuis elle a créé une association, parce qu'elle m'a vraiment impressionnée. Je me suis dit, mais quelle force, quel courage pour subir ça pendant une émission, après son témoignage, entendre ça. C'est vraiment incroyable. Donc ensuite je l'ai revue récemment aussi actuellement dans les médias. Et c'est fou de se dire donc elle a vécu cet inceste donc à 15 ans. Elle en a parlé donc 30 ans après, donc elle avait 45 ans. Et pendant toutes ces années, elle avait recherché une aide psychologique. Elle avait vu des psychologues, des psychiatres, des médecins, etc. Et ce qui est vraiment effroyable qu'elle explique, eh bien, c'est que à l'époque, il y avait un bâillon de la théorie freudienne qui parlait donc de sexualité active des enfants. Et tout plein d'autres stéréotypes sur la sexualité féminine qui font qu'elle n'était pas du tout entendue ni aidée. Donc ça aussi je reviendrai parce que je pense que c'est vraiment un sujet important de parler du cœur du sujet, en fait, des stéréotypes sur la sexualité, sur la domination masculine, sur les liens entre sexualité et contrôle social des femmes, sur la culture du viol. C'est un sujet dont je parlerai aussi plus précisément. Dans une autre émission. En tout cas, voilà, elle parle de ça. Donc à l'époque, il y avait une complaisance totale des psys. Il y a eu même, pendant une soi-disant thérapie des psys qui en ont profité pour coucher avec elle. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et ce qui lui a déclenché sa force de faire, d'écrire, en fait, enfin, elle explique aussi qu'elle a essayé de trouver ses propres thérapies par l'art, elle peignait, etc. Puis ensuite, elle arrivait petit à petit à l'écriture. Et en fait, c'est en 1983, donc elle était éducatrice en psychopédagogie. Et à l'époque, elle a rencontré une petite fille par rapport à son travail, une petite fille qui était en famille d'accueil. Et elle a reconnu tout de suite que cette petite fille était victime d'inceste. Et cette petite fille n'était pas crue. Et c'est cela qui a fait qu'elle explique qu'elle a décidé d'écrire le livre qu'elle a écrit. Voilà. Donc je vais faire une petite pause musicale avant de passer à d'autres thèmes. Donc je recherche ma petite pause musicale, je ne la retrouve plus, donc c'est pas grave. Ouais, je vais vous faire écouter donc Ma chérie d'Anne Sylvestre.
Va, ne retiens pas tes ailes, ma chérie. À comprendre, moi je sais depuis longtemps qu'un jour se défait le tendre, que l'amour change de camp.
Mais tu t'es trompé de page, le tendre n'a pas changé, il n'a pris qu'un peu de large, il a voulu voyager.
déplie-les bien tes ailes, ma chérie.
Il faudrait que tu essayes toi aussi.
Que sais-tu donc de mes ailes, de qui me les a coupées, qui a piégé l'hirondelle pour la mettre au poulailler?
Moi, la vie, tu peux me croire, je ne l'ai pas demandé.
C'était ma plus belle histoire, ne va pas me l'abîmer. Moi, je t'ai lissé les ailes, ma chérie.
Mais je peux lisser les tiennes, moi aussi.
Ça ne se fait pas si vite déjà, tu ne comprends plus. Tu as l'âge de la fuite, moi, celui du déjà-vu.
Mais tu restes à ras de terre,
celle où je t'ai fait marcher.
Mais pourquoi toujours te taire?
Il le faut pour t'écouter. Mais oui, j'ai toujours mes ailes, ma chérie. Mais tu as ouvert les tiennes sur ma vie. Mais il faut que je revole, laisse-moi m'habituer.
Ne dis pas de choses folles, tu as toujours su voler.
Mais tu fais de la voltige,
tu pourras voler plus bas.
Mais si je prends le vertige,
je volerai.
Magnifique Anne Sylvestre. Alors je vais reprendre La Révolution sera féministe avec une tribune dont je suis une des signataires et fière de l'être. Donc c'est une tribune qui s'adresse aux parlementaires par rapport à la loi sur les principes républicains qui est mise en examen donc depuis lundi, donc avant-hier. Alors je vais vous la lire. Nous, féministes engagées pour les droits des femmes, le progrès social et l'égalité, nous luttons contre toute forme de domination patriarcale et soutenons les femmes et les hommes qui, ici comme dans d'autres pays, mènent un combat, souvent au risque de leur vie, contre les fondamentalismes politico-religieux. C'est pourquoi, quelle que soit notre appréciation de l'action du gouvernement sur d'autres sujets, nous prenons acte avec satisfaction de l'esprit du projet de loi, confortant le respect des principes de la République. Qui veut répondre à un certain nombre de défis auxquels sont confrontés les principes universalistes inscrits dans l'ordre juridique français. Nous nous réjouissons notamment des avancées en matière de dignité et de droits des femmes que ce projet propose. L'application de la loi française est de nulle autre sur les successions. Le prélèvement compensatoire sur les biens détenus en France prévient toute discrimination selon le sexe entre les héritiers et héritières et leur garantit un égal accès à la réserve héréditaire. Deuxièmement, la réaffirmation que la polygamie est une atteinte à la dignité des femmes, contraire à l'égalité entre les femmes et les hommes, s'accompagne de l'introduction d'une réserve générale de polygamie, donc désormais sans possibilité de dérogation pour l'accès à certains droits, titres de séjour, prestations sociales, reversement de pension. Donc ça me fait penser, c'est l'histoire de la polygamie, de lire le beau livre de Jaila Amadou Amal, camerounaise, qui a eu le prix Goncourt pour son livre « Les impatientes ». Ensuite, l'interdiction d'établir des certificats de virginité pose clairement que c'est en cédant aux injonctions fondamentalistes que peuvent se perpétuer des pratiques du contrôle du corps des femmes et des jeunes filles, attentatoires à leur intégrité et à leur dignité, alors que la loi peut y mettre un terme. L'obligation pour l'officier d'état civil de s'entretenir avec chacun des futurs époux séparément afin de prévenir les mariages forcés ou frauduleux, cherche à garantir la liberté matrimoniale et plus particulièrement celle des femmes, qui sont les principales victimes d'un non-consentement qu'il convient de protéger de pratiques familiales, religieuses ou culturelles, contraires aux principes de la République. Donc tout cela, ce sont donc des avancées, hein, donc je récapitule, que dont nous nous félicitons par rapport aux successions, la polygamie, la virginité qui ne devrait pas exister et les mariages forcés. Par contre, on regrette certains points. Donc il y a des silences du texte sur des sujets qui sont pourtant essentiels. Alors notamment par rapport à l'extension de l'obligation de neutralité du service public aux organismes auxquels ont été confiées des missions de service public, rien n'est dit sur la nécessaire neutralité des collaborateurs et collaboratrices occasionnels du service public. Du coup, actuellement, donc, si rien n'est fait, les accompagnateurs scolaires pourront impunément afficher les marques d'un prosélytisme religieux et d'une discrimination femmes-hommes en totale contradiction avec l'esprit du présent projet de loi et en contradiction avec la loi de 2004. Autre point qui malheureusement est passé sous silence, eh bien, ce sont pourtant il y avait des bonnes intentions qui étaient manifestées pour le sport, mais rien n'est dit dans le texte. Donc le sport, c'est très important en raison de son rôle dans la sociabilisation, la formation, notamment des jeunes. Et on aurait voulu que l'État s'engage, pareil, sur le respect par les agents sportifs, ainsi que les sportives et sportifs, sur la stricte neutralité, telle que définie dans la règle 50 de la charte olympique. Donc ça serait bien de se servir de cette règle de la charte olympique. Il existe un article qui dit que dans le sport, ça existe l'égalité homme-femme. Et en principe de cette égalité, les femmes n'ont pas à porter des vêtements couvrants, des voiles islamiques qui les discriminent et qui les empêchent d'être égales, tout simplement. Et je trouve plus mes mots, excusez-moi, qui en fait sont le fait d'une ségrégation sexuelle. Voilà. Donc, dernier point concernant le voilement des fillettes, eh bien, rien n'a été fait dans ce texte. Donc, nous le regrettons complètement. Alors que le contrôle renforcé des établissements scolaires hors contrat et de l'instruction en famille se veut répondre à des dérives avérées, dont la ségrégation précoce des petites filles soustraites à l'instruction publique, nous ne pouvons admettre que l'éviction brutale de l'amendement visant à interdire le marqueur sexiste, séparatiste et de maltraitance sur enfants, qu'est le voilement des fillettes, qui plus est au motif scandaleux que cela polluerait le débat. Donc, effectivement, le voilement des fillettes, c'est terrible. Et je vais faire parler une féministe sur le sujet du voilement des fillettes. Cette féministe s'appelle Fatia Agag Boudjala. Donc, elle se bat pour la laïcité, pour l'égalité, et elle se bat contre le voilement, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Mais quand il s'agit d'enfants, elle explique à quel point les conséquences sur leur développement sont terribles. Voilà ce qu'elle dit. Pour les islamistes, l'enjeu du voilement des fillettes est de les formater suffisamment tôt pour qu'elles ne s'écartent jamais de cette voie. Voiler des enfants vise à les emprisonner dans une ultra-orthodoxie. Peu à peu, par cette pratique, on apprend à la fille qu'elle a des obligations, que les garçons n'ont pas. On lui inculque l'idée qu'en tant que fille, elle constitue une vulnérabilité pour la famille. On lui impose une situation d'invisibilité pour ne pas exciter les hommes. Le voilement relève de l'hypersexualisation du corps des enfants, mais le voilement des fillettes produit aussi des effets sur les petits garçons. Ils intègrent que les femmes sont différentes. Les garçons apprennent qu'une fille qui se respecte est une fille qui se voile. Pour les islamistes, l'enjeu du voilement des fillettes est de les formater suffisamment tôt pour qu'elles ne s'écartent jamais de cette voie. Pourtant, certains le défendent et défendent de ne pas l'interdire au nom de la liberté religieuse, ou parce qu'ils craignent qu'une telle mesure les stigmatise. Je ne supporte plus que l'accusation de stigmatisation soit un prétexte pour ne pas faire avancer les choses. Le voilement ne correspond à aucune pratique musulmane du Maghreb. Cela vient d'Afghanistan. En Algérie, par exemple, ceci n'existe pas. Je ne comprends pas comment des féministes peuvent défendre le voile. Il n'y a rien de plus patriarcal. Les féministes parlent de consentement, mais la religion est le mécanisme le plus efficace d'emprise sur les êtres. Un enfant ne souhaite qu'une chose, plaire à ses parents. Voilà, alors on n'a pas de chiffres sur le voilement des fillettes car les ministères de l'Éducation, de la Santé et de l'Intérieur s'interdisent d'enquêter. Donc, cependant, Fatia Boujala et moi aussi d'ailleurs, je constate que autrefois, quand elle était petite fille, elle a à peu près le même âge que moi, une petite fille d'émigrée, elle rencontrait très peu d'enfants voilés. Et maintenant, on croise des enfants de 3 ou 4 ans qui portent le foulard. Ce n'est pas anecdotique. C'est surtout une symptomatique d'une normalisation de pratiques ultra-orthodoxes. Et voilà. Et ce qu'elle propose aussi pour empêcher cela, c'est de remplacer la notion d'autorité parentale par celle de responsabilité parentale. Voilà. Donc pour compléter par rapport à ce projet de loi, donc encore pour aller un peu plus loin, je vais me servir de l'analyse de Michèle Vianès, qui est présidente de Regards de Femmes, qui est une grande association qui s'appuie sur l'universalisme, la laïcité, l'égalité, pour agir dans le monde et en France sur l'émancipation des femmes. Donc voilà ce qu'elle dit. Elle dit qu'il serait bien d'intituler le chapitre 3 de cette loi « Respect du droit des personnes et de l'égalité femmes-hommes ». Ça serait important dans le contexte actuel. La grande anthropologue Françoise Héritier voulait dissoudre la hiérarchie femmes-hommes. Et aujourd'hui, la machocratie perpétuée par les racialistes, indigénistes et autres intersectionnels voudrait dissoudre les femmes, les gommer, voire bannir le mot de femme. Alors, par rapport à la polygamie, Michèle Vianès, elle dit qu'elle était invitée le mois dernier à Niamey par la Commission électorale nationale indépendante lors d'un séminaire de formation pour des candidates aux élections législatives qui réunissait 60 femmes des différents partis politiques. Bien, toutes ces femmes ont déclaré que leur objectif, une fois élues, serait de faire voter des lois pour que les filles ne soient plus soumises à la polygamie. Toutes ont dénoncé la culture de la haine provoquée par la polygamie. Il serait donc bienvenu qu'en France, pays où les politiques publiques tendent vers l'égalité femmes-hommes, que cette situation violente à l'égard des femmes ne soit plus tolérée, et donc refuser le titre de séjour aux hommes et apporter tout le soutien nécessaire aux épouses. Ensuite, pour compléter par rapport au certificat de virginité, eh bien, le certificat de virginité est à interdire au moins à 4 titres, scientifique, législatif, déontologique et parce qu'il fait perdurer une coutume archaïque violente envers les filles. Il est urgent de poser un interdit législatif face à un acte qui est une violation des droits individuels des femmes et des filles. Établir des certificats de virginité sous prétexte que cela protégerait des filles de violences familiales, c'est tolérer cette tradition néfaste et accepter son maintien. En réponse aux obscurantistes qui placent leur honneur entre les cuisses des femmes, prévenir par l'éducation, poser l'interdit par la loi et pénaliser les auteurs est nécessaire, comme toute violence faite aux femmes et aux filles. Les certificats de virginité sont également intolérables car ils sont la matérialisation de la pression psychologique qui s'exerce dès la petite enfance sur les filles. Ils ont également un impact sur les garçons qui attendent que leur future femme soit vierge. Cette loi permettrait aux jeunes filles de l'opposer aux exigences parentales. Des amendes à l'encontre des parents comme des médecins, mais aussi des condamnations à des journées de sensibilisation, de formation, permettraient d'agir contre l'ignorance, la désinformation et de faire évoluer les mentalités. Danser autour du drap blanc souillé de sang de la virginité de la mariée, brandi par les invités le soir du mariage, n'a rien de festif ni d'honorable. Voilà, et donc le voilement des petites filles, j'en ai déjà parlé, j'ai cité Fatia Boujala, mais c'est effectivement très grave comme risque pour le développement cognitif, social, et leur santé psychique et physique. D'ailleurs, cela contrevient à la Convention internationale des droits de l'enfant. Cela peut être considéré comme une maltraitance, puisque cela bafoue. Donc la maltraitance des enfants, elle est définie comme ça, quelque chose qui bafoue le bien-être mental et social. Comment peut-on penser ouvrir le champ des possibles des fillettes alors que le voilement implique des restrictions à leur liberté de déplacement ? Ça entrave les activités exploratoires nécessaires à la découverte du monde. Ça entrave leur curiosité naturelle nécessaire au développement intellectuel. Ça entrave les activités sportives et ludiques. Ça entrave les contacts humains, la connaissance de l'autre, de celui ou celle qui est différent. Voilà. Et bien d'expérience, malheureusement, on s'attend à qu'il y ait une mobilisation minoritaire, mais vociférante et organisée financièrement sur les réseaux sociaux de tous les obscurantistes possibles. Voilà. Mais on tient bon par rapport à nos revendications sur ce projet. Donc voilà, je regarde le temps qui passe et... Il ne reste pas beaucoup de temps parce qu'il y avait par rapport à ces actualités qui vont dans le même sens. Donc oui, par rapport au voile, il y a eu malheureusement un World Hijab Day le 1er février. Donc triste célébration du voile. Alors, évidemment, je trouve ça complètement lamentable de ce mouvement dont la fondatrice s'appelle Nazma Khan, qui voudrait faire reconnaître comme une liberté, voilà, des femmes musulmanes de porter un hijab. Donc, c'est une journée, donc le World Hijab Day, qui a été lancé en 2013, qui malheureusement a essaimé dans plusieurs pays. On se souvient qu'en France, Sciences Po avait organisé un Hijab Day qui avait été très controversé à l'initiative de quelques étudiants. Donc maintenant, cette fondatrice appelle carrément chaque gouvernement dans le monde à instaurer officiellement un jour pour le célébrer. Donc c'est devenu... c'est le premier... c'est pas heureusement que les gouvernements n'ont pas accepté. Mais par contre, si, c'est le cas dans l'État de New York ou aux Philippines. D'accord. Et en Angleterre, donc lundi dernier, le 1er février, on a eu aussi des députés de la Chambre des communes qui ont célébré cette journée en portant un voile devant le Parlement. Eh bien, je trouve ça vraiment terrible, puisque ce soutien à une minorité de femmes qui prétend choisir cela, eh bien, se fait quand même au prix de l'approbation du patriarcat le plus rétrograde. Et se fait à l'encontre de musulmanes féministes qui sont de plus en plus nombreuses à s'élever contre le voilement. On peut en citer une connue qui s'appelle Mazi Alinjad, mais il y en a de très 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 nombreuses. Hein. Je parle souvent aussi de ce sujet et je cite souvent toutes les nombreuses femmes musulmanes qui luttent souvent au prix de leur vie contre le voilement. Donc, Mazi Alinejad, qui est à l'origine du mouvement White Wednesday en Iran, où des femmes protestent contre le port du voile, évidemment, elle n'a pas le même regard sur cette journée. Voilà ce qu'elle dit. Celle qui célèbre le Hijab Day devrait comprendre que le hijab ne signifie pas la même chose pour toutes les femmes. Nous ne pouvons pas célébrer cette journée comme si de rien n'était et ignorer des millions d'autres femmes qui sont menacées si elles ne le portent pas. Ainsi, en Iran, 6 femmes du mouvement White Wednesday ont été condamnées à 109 ans de prison pour ne pas avoir porté leur hijab. Est-ce que celles qui vont célébrer le Hijab Day vont avoir un message de solidarité envers elles ? Si les Occidentales peuvent se permettre d'avoir un Hijab Day, les femmes en Iran n'ont pas le loisir d'avoir un No Hijab Day. Pire, ce jour accentue la pression en Iran. Quand les femmes en Occident montrent ouvertement leur amour du hijab sans condamner la répression en Iran, notre gouvernement utilise ce prétexte pour davantage nous réprimer encore. Ils disent « Regardez, même à l'Ouest, ils célèbrent le hijab. De quoi vous plaignez-vous ? » Il y a une autre activiste, Yasmine Mohamed, que je vais citer, donc qui est basée au Canada, qui était musulmane et qui a fait le crime d'apostasie, puisque le mot l'apostasie, c'est un crime dans pratiquement tous les pays du monde. Elle a lancé le hashtag sur les réseaux sociaux et son objectif, c'est de contrer la désinformation et les mensonges au sujet du voile. Donc elle a lancé un hashtag No Hijab Day, pour lancer un non-voile. Et donc voilà ce qu'elle dit. Le hijab n'est ni plus ni moins qu'un outil de la culture du viol, car en couvrant le corps des femmes, il montre que la femme serait responsable du désir sexuel des hommes qu'elle suscite et qu'elle doit se couvrir pour aider les hommes à contrôler leur désir sexuel. Elle est donc responsable des agressions qu'elle subirait en ne le portant pas. Voilà, donc elle a lancé le hashtag Free From Hijab qui invite les femmes à partager leurs histoires d'émancipation. Voilà, donc il reste 5 minutes et ça, je vais vous parler aussi du coup de toujours dans la même idée d'une femme qui s'appelle Nadia Girtz, qui est une journaliste pour le journal Marianne et qui est belge et qui est qui fait l'objet actuellement d'une campagne de haine et de diffamation, de menaces sur les réseaux sociaux en raison de ses positions en Belgique, donc en faveur de la neutralité dans l'enseignement obligatoire et aussi par rapport à sa réaction à la suite de l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020. Donc, il y a Jemila Benahib, qui est une politologue et écrivaine et porte-parole du collectif Laïcité, qui a écrit une tribune pour soutenir Nadia Girtz. Et je la rejoins complètement. Donc, Nadia Girtz, qui est professeure de philosophie, donc elle est à la Haute École de Bruxelles-Brabant, HE2B. Donc, d'ailleurs, Nadia Girtz avait écrit aussi un article qui s'appelle « L'intersectionnalité de la haine ». Donc, je vais vous en donner un extrait pour que vous compreniez ce qu'elle essaye de faire. Alors, voilà ce qu'elle dit. « À présent, c'est dans l'ensemble de l'enseignement supérieur organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement que le voile sera autorisé dès la rentrée scolaire de septembre au nom de l'inclusion par les études et l'accès à l'emploi, y compris dans la filière pédagogique qui forme de futurs enseignants et dans laquelle j'enseigne la philosophie et l'histoire des religions et la neutralité, matière sensible s'il en est. » Voilà, donc évidemment pour elle, elle s'insurge contre ce changement en fait d'autoriser le voile dans ces écoles-là, et elle a reçu avoir les réactions haineuses que suscitent mes positions publiques, tout particulièrement depuis l'assassinat de Samuel Paty et plus encore depuis l'annonce du changement prochain de règlement des études, il serait grand temps de songer à des mesures visant l'inclusion des laïcs universalistes, parce qu'il y a infiniment plus de haine dans le moindre des dizaines de commentaires et messages que j'ai reçus ces dernières 48 heures que dans l'ensemble de mes écrits, où je défie qui que ce soit de trouver la moindre trace d'un propos non seulement tombant sous le coup de la loi, mais encore s'écartant de ma ligne profondément humaniste, laïque et universaliste. Voilà, elle poursuit comme ça, mais je ne m'inquiète pas. En matière d'intersectionnalité des luttes, je fais presque carton plein. De toute évidence, être une femme, affirmer des convictions et ressembler à l'idée que l'homophobe de base se fait d'une lesbienne me place au carrefour de plusieurs discriminations qui s'additionnent et se renforcent. Aussi, je ne doute pas que c'est par pure distraction qu'aucune association intersectionnelle n'a jusqu'ici pris courageusement ma défense et ne manquerait pas de vous tenir informé des comités nombreux de soutien qui, j'en suis certaine, fleuriront bientôt. Voilà. Donc j'admire aussi son humour. Voilà, je crois que je vais bientôt céder, il ne reste plus beaucoup de temps donc pour la prochaine émission à qui je dois céder la place, mais quand même je voudrais quand même sur Nadia Girtz, donc je vous ai dit Jemila Benahib a écrit pour la soutenir. Et elle parle aussi de ce problème de protéger les écoles des dérives religieuses. Donc je suis d'accord avec ça. Et voilà ce qu'elle dit. Donc taire aujourd'hui cette violence dirigée contre Nadia Girtz, enseignante, essayiste et chroniqueuse à l'hebdomadaire français Marianne, récipiendaire du prix international de la laïcité 2019, c'est déjà céder à la peur, à la censure et à l'autocensure, impensable pour nous démocrates attachés à la raison, à la pensée critique et au débat contradictoire. Nous valorisons l'éducation, la culture et les échanges. C'est pourquoi il est impératif de protéger l'école des pressions religieuses de plus en plus fortes. En France, une enquête publiée au début du mois de janvier par la Fondation Jean Jaurès révèle que les revendications liées à des croyances ou des pratiques religieuses en milieu scolaire sont en nette augmentation. La majorité des enseignants dans le secondaire sont confrontés à des pressions religieuses. Qu'en est-il en Belgique ? Ouvrons le débat. L'école doit préparer les élèves à distinguer entre ce qui relève de la croyance et ce qui est de l'ordre de la connaissance, ce qui peut avoir valeur d'universel et ce qui peut être lié à la particularité d'un individu. La libre expression des idées est nécessaire. Ceci ne peut se faire sans une tête bien faite. Il faut cependant distinguer deux choses. D'un côté, la critique des religions protégée par la loi, y compris acerbe et virulente, et de l'autre, l'incitation à la haine et à la discrimination à l'endroit des personnes sur une base religieuse sanctionnée par la loi. Par conséquent, critiquer des dogmes ou des pratiques religieuses réelles ou supposées ne devrait pas conduire à l'insécurité ou l'intimidation. Et donc, elle demande un soutien public et politique impératif pour Nadia Girtz. Dans ce contexte, nous appelons à une très large mobilisation en faveur de la laïcité et de la neutralité dans l'enseignement obligatoire en Belgique et dans l'administration publique. Il convient de rappeler que la laïcité n'est pas une guerre contre les religions, mais le principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits humains sur l'impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence religieuse. Et j'ajouterai que c'est une force et un bouclier pour le droit des femmes. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine.
Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.